Un camarade de Screech, on va parler des OS nationaux.
Chef, oui, chef.
Donc le système d'exploitation, bah, c'est la base de l'informatique moderne. Sans lui, vous ne feriez pas tout ce que vous faites avec votre PC, votre smartphone. Sans vous faire un historique complet exhaustif des OS, les premiers à avoir émergé à l'ère moderne sont Unix et DOS. Unix, par son caractère universitaire, s'est répandu dans le monde entier. Les établissements d'enseignement, entre autres l'université, étant quasiment les seuls à pouvoir se payer le coût exorbitant de la licence, sans parler des salles entières remplies d'armoires nécessaires au matériel pour le faire tourner.
Puis surtout, c'était prévu pour plusieurs utilisateurs.
Voilà. Et donc il y avait Unix et puis il y avait DOS, donc qui deviendra Windows et qui lui s'imposera plutôt dans les entreprises et dans les foyers grâce notamment au partenariat avec Intel. Et donc au niveau mondial, on vise s'établir une monoculture des OS, plutôt une duoculture. Quel que soit le pays où vous rendez, les ordinateurs seront soit sous Windows, soit sous Unix. macOS, X et Linux étant des Unix plus ou moins.
Allez. Plus ou moins.
Voilà. Plus ou moins. Mac OS X, c'est un BSD. Hein,
ouais. Darwin.
C'est
et
pas
POSIX,
hein, bon, c'est pas POSIX du tout.
On en fera une émission. Et donc, à l'époque où les OS géraient que de pauvres lignes de commande, les gouvernements n'avaient pas tellement d'intérêt à se mêler de la nationalité ou de la société qui contrôlait ces OS. Mais depuis que les ordinateurs gèrent littéralement notre vie et stockent toutes nos données personnelles, le sujet est devenu sensible et le contrôle partiel ou total d'un OS représente une mine d'or en termes d'informations et de données personnelles. Ainsi, on ne s'étonnera pas de voir la Corée du Nord et la Chine comme pionniers du domaine. Pour la Corée du Nord, nous avons Red Star OS, Punggumbyol en nord-coréen, vous excuserez mon accent, développé depuis 2002 par le Korea Computer Center. Il s'agit d'un Linux dont l'interface graphique ressemble beaucoup à celle d'un Mac. Difficile d'en savoir plus, et si vous prenez l'envie de l'essayer, sachez que la variante nord de la langue coréenne est assez différente de sa variante sud.
Alors,
bon courage.
Il y a un test complet qui a été fait, c'est vrai qu'il est très difficile à obtenir. Il y a donc, depuis qu'il y a des voyages en Corée du Nord et qu'il y a des journalistes sur place, quelqu'un a réussi à en avoir une distribution, il l'a installé dans une machine virtuelle, il ne l'installait pas sur un vrai PC, parce que par exemple, toute vidéo que vous essaierez de lire ou tout fichier que vous créerez sont marqués en fait avec un identifiant unique. Ça, bien évidemment, pour essayer de choper soit les dissidents ou toute personne qui pourrait être critique, soit pour choper ceux qui essaieraient de regarder les séries décadentes sud-coréennes. Et en fait, là-bas, effectivement, il y a un internet qui est très fermé, mais il y a tout un trafic, ce qu'on appelle le dark web, avec des clés USB, où les gens s'échangent les films comme ça et qui là sont... ils sont sur les dents pour essayer de les choper à chaque fois.
Internet en Corée du Nord, officiellement, c'est un parc de 30 cartes SIM. C'est ça. Pour parler de la Chine, donc, qui suit un peu la même voie, donc, on a Red Flag OS, créé en 99.
Qui lui est librement trouvable, par contre.
Voilà, qu'on peut trouver librement, donc, qui est une distribution Linux, en fait, qui est la première distribution Linux aux couleurs du pays de Mao, créée par la Chinese Academy of Science, puis éditée par une société commerciale, Red Flag Software, soutenue par un fonds d'investissement du ministère de la Défense.
Donc, si je me souviens bien, c'était basé sur Red Hat, d'ailleurs.
Oui, plus ou moins sur des vieilles versions de Red Hat. Le projet prit fin en 2014, et c'est à ce moment-là qu'apparut NeoKilin, promu par le gouvernement chinois, et basé sur Ubuntu. Développé par la National University of Defense Technology, le projet s'inscrit dans la volonté de rendre la Chine technologiquement indépendante de l'étranger.
Il y a un autre OS dont tu ne vas pas parler, qui est celui de la Russie. Et les Brésiliens aussi en ont un, si je me trompe.
Ouais, alors il faut voir dans quelle mesure, effectivement, ce sont des souverains, c'est pas juste des distributions rebrandées. Voilà, c'est... La question aussi, c'est que chaque pays a plus ou moins sa distribution nationale. Et donc la France, alors, comme toutes les dictatures socialistes...
Oh
tout de suite.
La France dispose de son propre OS. Bien sûr, il y a eu des distributions Linux créées en France, comme Mandriva, Linux Mint ou Mageia, mais elles ne sont pas souveraines, car gérées par des entreprises ou des associations. Non, celle qui nous intéresse, c'est Clip, une distribution française gérée par l'ANSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, à destination des administrations du pays. Difficile d'en savoir plus, la sécurité par l'obscurantisme étant le dogme encore majoritaire en France.
Je peux pas te laisser dire ça. Ce qui paraît, elle est disponible. C'est juste qu'on l'a pas trouvé.
Et ben, pourtant, j'ai cherché.
Mais si elle est disponible, pourquoi on passe des accords avec Microsoft, par exemple, pour l'éducation
Alors ça...
Problème de gros sous.
Il y aurait une histoire, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler tout à l'heure, sur le retrait de la préférence logicielle libre.
On en reparlera sans doute
après,
plus tard.
Oui, non, mais il a encore une vingtaine de lignes à lire.
Oui, donc...
Non, je parlais d'une future émission, en fait.
Mais donc, cette souveraineté, elle ne vient pas que du logiciel libre. Ainsi, Microsoft vient tout juste de conclure un accord avec le gouvernement chinois sur la mise en place d'un Windows 10 spécifique au gouvernement chinois. Et par gouvernement chinois, entendez aussi les citoyens. Windows 10, Xuang Gong Bang. Pardonnez mon accent chinois, qui est pire que mon accent anglais ou mon accent nord-coréen. En effet, Windows 8 avait été censuré dans l'Empire du Milieu, Microsoft refusant de coopérer et de communiquer sur les données qu'il récupérait. On peut dès lors suspecter Pékin d'avoir négocié l'installation de mouchoirs.
Va pas traiter le red flag de mouchard. Non. De mouchoir, s'il te plaît.
Donc, d'avoir négocié l'installation de mouchard en complément de son fameux grand firewall. Et c'est là que le bas blesse pour les OS souverains, car qui dit souveraineté dit mission régalienne. Et parmi elles, les missions de police et de renseignement qui sont beaucoup plus souveraines que votre vie privée.
Alors, juste une chose, tu savais que, en fait, le grand firewall donc, qui protège les citoyens chinois de l'influence occidentale néfaste et de la pornographie, il ne marchait pas sous IE7. IE8, c'était l'un des points importants de négociation qui était assez tendu en fait avec Microsoft.
D'accord,
ça a été très vite comblé après.
Oui, bizarrement. Voilà. Et donc, de là à y voir le principal intérêt d'un OS souverain, la question est ouverte. Car entre autarcie numérique et pouvoir arbitraire, il va peut-être falloir ressortir la guillotine numérique pour couper la tête de l'OS souverain.
On va avoir des emmerdes si tu dis ça.
On tape souvent quand même beaucoup sur l'État, et je suis pas le dernier, mais il y a quand même une question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que il faut mieux un autoritarisme d'État ou un endroit où l'État défend une espèce d'espace public où l'état de droit est important, ou bien faut-il mieux des entreprises qui aient ce rôle-là. Je veux dire, moi, je suis pas plus rassuré de donner tous mes éléments de ma vie privée à Facebook, par exemple.
La
quoi.
Différence, c'est que tu choisis d'être sur Facebook.
Ouais, mais l'État
tu ne choisis pas l'ensemble des données ou la manière dont l'État
impacte
ta vie numérique.
L'État est garant de la sécurité d'intérêt public, par exemple, quoi. Pas Facebook. Mmh. Facebook, c'est quand même un intérêt privé à la base.
C'est vrai.
Donc le débat se pose, tout n'est pas à jeter.
Mais depuis Snowden, l'une des questions qui est les plus hallucinantes, c'est que justement les GAFAM que tout le monde brocarde, etc. Or, il suffit d'interroger, on l'a fait dans une émission avant CPU sur une crypto-partie qu'on a enregistrée au dernier THSF avec l'un des formateurs en sécurité numérique à Reporters sans frontières. Il dit c'est au contraire eux qui sont les meilleurs garants de la vie privée des gens quand on parle de la Tunisie, quand on parle de certains pays effectivement beaucoup 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 plus invasifs. Ouais,
et puis on parlait de la CNIL tout à l'heure, il faut regarder effectivement comment est utilisée la CNIL. À la base, la CNIL avait été créée pour contrôler l'État après le scandale du fichier Safari. Elle a été depuis retournée contre les entreprises et elle fait sa mission de protection des données personnelles auprès des entreprises, elle le fait plutôt bien. Mais du coup, elle a complètement délestée de son pouvoir.
Elle a été délestée plus de... C'est pas elle qui l'a délestée,
voilà, non,
c'est que depuis
bien.
2003, effectivement, ça lui a été tricoté.
On a retourné la CNIL contre les entreprises, qui fait un boulot plutôt louable.
Très bien. Ouais.
Voilà. Mais elle a été délestée de son pouvoir de contrôle de l'État, et donc il n'y a plus vraiment d'acteurs sérieux qui contrôlent l'État en matière de données personnelles. Donc dans ce contexte, moi, je n'ai pas confiance.